Espace Livre, la rubrique littéraire de Demandez le Programme. Les rencontres d'Edmond Morel.
Nicolas Avril, vous publiez aux éditions Plon un récit, une biographie, un texte éminemment littéraire en tout cas, qui s'intitule « Voyage en avril ». Je lis la petite notice que vous mettez en quatrième de couverture, en tout cas des extraits. Vous dites « J'avais besoin de parler de toi, mon père, et j'ai commencé à parler d'elle, de ta mort. Je n'écris pas dans l'espoir de te retrouver, j'écris pour te trouver, et peut-être pour me trouver. Tu m'as toujours paru impénétrable, sans doute chaque père donne-t-il à chaque enfant, à chaque fille unique, le sentiment d'être une énigme. » Alors, Nicolas Avril, l'écriture, est-ce qu'on peut la considérer comme étant une forme d'exploration idéale du mystère, de l'énigme de l'autre et puis de soi-même ?
Bien sûr, j'ai écrit ce livre, j'ai commencé à l'écrire. Au reste, il s'est presque écrit malgré moi, car ces mots-là, au départ, n'étaient pas du tout faits pour être un livre. J'ai commencé à écrire 3 semaines à peine après la mort de mon père. J'avais assisté seul à son départ. C'est assez normal puisque je suis fille unique et j'étais auprès de lui à ce moment-là. Et ensuite, ma douleur a été telle que je n'ai trouvé que les mots pour essayer de, non pas de la calmer, mais tout du moins pour essayer qu'elle bouge moins à l'intérieur de moi, comme si les mots pouvaient la fixer. Donc c'était des mots pour tenter de m'apaiser. Et puis, peu à peu, ces mots-là sont venus, ont été plus nombreux, sont allés en profondeur dans les souvenirs que j'avais de mon père, de ma vie avec lui, de maman aussi, bien sûr. Et ça a été un voyage à travers tout le siècle. Mais mon père était un homme extrêmement secret. Et il fallait que j'aille à sa recherche par mes mots, que j'essaie de comprendre, ce qu'il était, ce que j'avais été avec lui, ce que nous avions été ensemble, et je n'avais que l'outil des mots.
En exergue de votre livre, vous citez Jean-Paul Sartre, un extrait de son autobiographie, enfin de l'autobiographie de son enfance, intitulé « Les mots », justement. On y reviendra d'ailleurs à plusieurs reprises pendant l'interview. Il dit « Si je range l'impossible salut au magasin des accessoires, que reste-t-il » Est-ce que la réponse ne se trouve pas finalement dans le titre et dans ce mot que vous évoquez si souvent, « les mots »
Oui, il reste les mots, il reste le parcours. Il reste ce qui a été et je voudrais aussi qu'il reste à travers ces mots. Et je dis à un moment, mon père, toi qui n'as même pas de tombe, puisqu'il n'en souhaitait pas, il ne voulait pas être inhumé, je voudrais t'ériger une cathédrale de mots. Et c'est ce que j'ai tenté de faire. Ce n'est peut-être pas une cathédrale, c'est peut-être une église bancale de rien du tout, mais c'est ma chapelle et elle est ardente.
Nicolas Avril, on peut dire que l'écriture, mais aussi l'art en général, est une manière de transcender l'expérience intime pour la transmettre et en faire quelque chose d'universel. Je ne sais pas si votre livre est une cathédrale ou une chapelle, en tout cas, effectivement, il est ardent. Et vous avez réussi cette alchimie de faire que votre expérience individuelle, notamment celle de la solitude absolue, de celle qui assiste à la mort de son père, devienne quelque chose que le lecteur peut partager comme étant une expérience qu'il s'approprie. Est-ce que vous partagez ce sentiment, cette appréciation dans le rôle qu'a la littérature aussi ?
dans le rôle qu'a la littérature, bien sûr, c'est de transmettre ce qu'il y a de plus universel, c'est-à-dire qui peut être ressenti par tout le monde. Et c'est souvent dans la spécificité et la profondeur de son moi, plus on est égoïste, plus on a de chance de transmettre. Parce que dans les profondeurs, on peut tous communiquer, on ressent les mêmes choses. La peur de la mort, on a tous des pères, des mères, on a tous ces sentiments très très forts, le sentiment de manque aussi quand il y a la disparition. Tout cela, bien sûr, mais savoir si ce voyage en avril, les autres peuvent le ressentir comme leur propre itinéraire ou peut-être quelques étapes de leur itinéraire. Évidemment, c'est pas à moi de le dire, mais c'est ce que je souhaiterais. Et puis, c'est un voyage qui se fait presque sur un siècle, puisque mon père est mort, il allait avoir 97 ans. Donc, c'est sa vie, c'est la mienne, c'est celle de nous trois. C'est ce que j'appelle ce triangle amoureux, père, mère, enfant, et même quand on n'est pas enfant unique, il y a quelque chose d'unique malgré tout dans la relation père, mère, enfant, et plus que le triangle amoureux, ça c'est un triangle, ce triangle qu'on pourrait dire vaguement familial, qui va jusqu'à la mort, qui ne peut pas, et qui va même au-delà de la mort, la preuve en est, à travers ce livre, c'est un triangle qui ne peut, que rien ne peut faire éclater.
Votre livre démarre, dans la construction du volume du livre, démarre par la mort de votre père et se termine par la mort de votre père. Entre ces deux passages-là, il y a une sorte de promenade qui n'est pas chronologique dans votre vie, dans l'évocation du souvenir de votre mère et de votre père, et de votre premier mari, de votre vie à vous. Pourquoi, tout d'abord, est-ce que la non-chronologie était identique à l'écriture et au moment de confectionner l'ordonnancement des chapitres dans le livre? Est-ce que vous avez écrit de manière, pour poser la question autrement, en vous laissant conduire par les hésitations de la mémoire?
Oui, tout à fait, c'est-à-dire que je n'ai pas écrit d'abord et fait ensuite un montage de ce que j'avais écrit. Ça s'est pensé, ça s'est ressenti en moi-même et ça s'est écrit de la même manière. C'est-à-dire que je n'ai jamais inversé de paragraphe, a fortiori de parties, de chapitres. C'est parce que les mots me faisaient faire cette recherche. Comme vous lisiez le passage de la quatrième de couverture, où c'est une sorte d'adresse à mon père, une sorte de lettre, ce n'est pas pour te retrouver que j'écris, mais pour te trouver, parce que j'ai eu l'impression de pas toujours comprendre. Et puis, vous savez, ce sentiment, parce qu'on vieillissait quand même ensemble et sans jamais vraiment se parler, et ce sentiment d'avoir encore un peu de temps et d'espérer que on va pouvoir se dire des choses jusqu'au dernier moment. J'ai espéré et puis ce n'est jamais venu. Mais en écrivant ce livre, j'ai eu l'impression que ces mots que nous ne nous étions pas dits, nous nous les étions dits tout de même. Et j'ai eu une sorte de preuve. Car juste avant son incinération, il a fallu que je choisisse une musique qui accompagnerait la sinistre célébration. Et d'un coup m'est venue l'idée, tout à fait musique religieuse, tout ça, de choisir la chanson de Charles Trenet, La mer. Et ça m'a paru, mais comme une évidence, c'était forcément ça. Mon père était originaire de la région de La Rochelle, et la mer, ça a été une nécessité pour lui comme pour moi. Nous retournions toujours vers cet océan qui nous avait été donné, mais trop repris aussi. Et nous avions besoin d'y revenir toujours. Et je savais bien sûr qu'il aimait Trenet. Donc j'ai choisi cette chanson. Et après, quand j'ai dû ranger l'appartement qui avait été son dernier appartement, et ce placard immense, grand comme un grenier, où étaient rangés nombre de souvenirs en vrac, j'ai découvert comme une dernière chose qu'il avait écrite, parce que dans les derniers moments de sa vie, il tremblait et il faisait des exercices en écrivant pour essayer de maîtriser les mots, encore les mots qu'il m'avait appris. Ces mots, il essayait de les écrire et il se trouve que la dernière chose qu'il avait écrite, c'était in extenso les paroles de la mère de Charles Trenet. C'est donc qu'il y avait une correspondance entre nous au-delà des paroles.
C'est vrai que c'est un des passages, en plus, parmi les plus émouvants de votre livre, parce que ce qu'on n'a pas dit d'emblée, c'est que votre livre est aussi un vecteur d'émotions très, très intenses. On sent que votre plume ou votre clavier était inspiré par directement, en ligne directe avec le cœur et pas avec la réflexion ou la reconstitution d'un vécu. Sur les mots, j'aimerais revenir sur une sorte d'impression que j'ai eue en lisant un passage de votre livre. Votre père est un personnage qui était un personnage, quand on le lit, on s'y attache tout de suite. C'est un homme qui détestait son métier principal, mais qui était un inventeur par ailleurs, qui travaillait dans un laboratoire, qui aurait dû déposer des brevets pour des tas d'inventions qu'il faisait. Et vous, on se souvient, après avoir lu le roman La Disgrâce, qu'enfant, vous avez été victime d'un début de malformation au visage qui s'est réparé par la suite. Et il appelait ça le joubi. Et alors, je me suis dit en lisant ce passage-là qu'en donnant un mot à quelque chose qui vous effrayait tous les trois, votre mère, votre père et vous, finalement, il vous donnait une sorte d'instrument de viatique pour la vie, de dire je vais te donner un mot qui te sert à désigner ce qui te fait souffrir. Finalement, il vous ouvrait la porte de la littérature d'une certaine manière.
Il ne m'avait même pas expliqué pourquoi il appelait ça ton joubi. J'avais en effet un maxillaire qui d'un coup avait eu une croissance un peu anarchique, ce qui entraînait une dissymétrie du visage. On a cru d'abord que c'était un accident dentaire, et puis non, c'était pas ça, c'était plus profond, d'où des opérations. Et le goût chez moi des convalescences, du bonheur de sentir quand tout repart. Et en effet, ce joubi, après, je me suis dit que c'était peut-être du verlan d'avant le verlan, c'est-à-dire que c'était l'inversion de bijou, joubi, ou alors c'était joubis, c'est comme deux joues à la place d'une. Enfin, en tous les cas, il l'a appelé ainsi. Et il m'a donné, en effet, ce viatique, mais il m'en a donné un autre qui est exactement dans le prolongement, c'est-à-dire qu'il m'a appris lui-même à lire dès l'âge de 4 ans. Et il m'a appris à lire comme un jeu, comme un plaisir. Et moi qui étais fille unique et qui pouvais regretter de ne pas avoir de frères et sœurs et de ressentir une certaine solitude, à partir du moment où j'ai su lire, c'est le monde qui s'ouvrait, c'était le plaisir de la découverte, de galoper dans tous les univers. Et plus tard, quand j'ai écrit, sans doute on ne peut pas écrire si on n'a pas aimé lire d'abord. Je pense que je le dois aussi à mon père, à ce jeu précoce. C'était pas moi qui étais précoce, mais c'était mon père qui avait su me solliciter ma curiosité au bon moment.
On a dit que votre livre ne suivait pas une ligne chronologique de la mémoire, donc on peut l'apparenter à une sorte de psychanalyse où un mot en appelle un autre, un souvenir en éveille un autre. Votre mère apparaît très tard dans le livre et vous dites à un moment donné que vous avez eu toujours beaucoup de difficultés et encore au moment d'écrire maintenant, d'écrire sur votre mère. Et il y a au début cette impression terrible pour une petite fille de voir le souci incarné par un plissement du front devant votre disgrâce, comme vous l'avez appelé par la suite. Est-ce que ce n'est pas aussi un livre qui va à la rencontre de cet inconnu qu'a été votre mère et peut-être à la recherche d'une réconciliation avec elle ?
Oui. Sans doute, nous avons été très proches dans mon enfance, profondément unis. Et si en effet, j'ai vu ce que l'on appelle la ride du lion se creuser entre ses sourcils, c'était ma responsabilité à cause de cette maladie, de cette inquiétude chez elle. Et ensuite, peut-être l'ai-je déçu par certaines choses. En tous les cas, nous nous sommes de moins en moins bien compris.
Vous avez identifié 3 déceptions très précisément à la fin du volume.
Oui, parce qu'il faut bien expliquer, il faut toujours trouver des raisons. Donc, d'abord, cette maladie qui, de la jolie petite fille dont elle était extrêmement fière, qui d'un coup couper l'aventure. Ensuite, l'inquiétude pour moi. Ensuite, le fait, dès l'âge, j'étais en classe du bac, d'avoir été enceinte au cours d'un tout premier amour, tout premier amour. Et c'était à une époque où ça ne se faisait vraiment pas. C'était l'opprobre sur la famille. Et là encore, c'est mon père qui a trouvé la solution, qui m'a tendu la main et qui a trouvé la solution que j'ignorais totalement dans mon ignorance complète. Et alors qu'avec mon père, ça n'a jamais été un problème et il n'a pas du tout changé dans sa manière d'être avec moi, j'ai compris qu'avec maman, on passait à autre chose. On passait à d'autres rapports. On n'a jamais réussi à renouer nos rapports comme avant. Et puis peut-être que j'évoluais différemment, que encore un problème de mots. J'avais des mots qui étaient différents des siens et que je n'ai pas eu l'intelligence et le pouvoir de continuer à aller vers elle avec ceux qui étaient les siens, qui étaient différents des miens et qui ne pouvaient pas évoluer.
La 3e déception de votre mère, c'était le départ. Vous quittiez le lieu de vie avec eux pour aller ailleurs, c'est-à-dire pour vivre votre vie, pour prendre votre envol.
Oui, pas de manière précoce du tout, mais il faut dire que j'avais tellement peur de dire à mes parents que je partais, surtout sans grand-chose. Comme dans un roman de Balzac, je montais à Paris. Je crois d'ailleurs qu'on dit encore « monter à Paris », de Lyon, je montais à Paris et je suis partie en disant simplement que j'allais y passer quelques jours et que je reviendrais, bien sûr, ça allait de soi. Et quand maman s'est aperçue que parmi mes affaires, il manquait mon manteau, on était au tout début septembre, donc elle s'est dit à ce moment-là que le départ devait être plus définitif qu'il n'y paraissait. Et évidemment, partir comme ça, sans prévenir, ce n'est pas bien.